Savoir Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour 10 minutes d'actualité. Somaliland, cela ne vous dit peut-être rien ou pas grand-chose, ou ça ne vous renvoie qu'à la Somalie. Si c'est le cas, bien sûr, eh bien, les habitants de cette partie de la Somalie veulent s'en détacher et créer une république autoproclamée du Somaliland. Ils votent alors aujourd'hui pour élire leur président avec l'espoir que cette troisième élection démocratique depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie en 1991 renforcera leur quête de reconnaissance internationale. Ce territoire, un peu plus grand que la Grèce, se distingue du reste du pays par sa stabilité et une composition clanique plus homogène. Toutefois, le Somaliland n'est reconnu par aucun pays et est toujours considéré par la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. RDC, bilan de 33 morts confirmés. Les autorités ont confirmé aujourd'hui que l'accident du train de marchandises qui a déraillé et a pris feu hier dans le sud-est de la RDC a tué 33 passagers clandestins et blessé 26 autres. L'accident dans la région minière du Katanga, non loin de la Zambie et de l'Angola, a fait 33 morts, a déclaré à l'AFP Richard Mouyeng Maguez Mans, gouverneur de la province de Lualaba, confirmant le premier bilan de la radio onusienne Okapi. Le 22 avril 2014, on se rappelle, un train de marchandises transportant plusieurs centaines de personnes avait également déraillé, faisant 74 à 200 morts. RDC toujours, direction Lubumbashi précisément. La police a installé son quartier général à Machu Picchu suite aux manifestations à répétition contre le régime Kabila, selon notre correspondant sur place Narval Mabila. L'annonce a été faite par le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Paulin Kiougou, lors d'une grande parade de toutes les unités de la police à Machu Picchu, nous dit Mabila, qui précise que certains habitants n'apprécient pas cette présence policière et ils sont prêts à en découdre avec la police le mercredi 15 novembre, journée prévue pour les manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Manifestation aussi en fin de semaine prévue cette fois-ci au Togo. Dans un communiqué, Éric Dupuis, porte-parole de la coalition de 14 partis d'opposition, a annoncé des journées de manifestation les jeudis, vendredi et samedi prochains contre le régime de Faure Gnassingbé. Selon M. Dupuis, les chefs de l'opposition avaient prévu de se rendre à Sokodé, Bafilo et Mango, trois villes qui ont été le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants depuis fin août. Mais le gouvernement s'y est opposé, ces villes étant en état de siège, selon M. Dupuis. Des journalistes africains sont réunis à Ouagadougou à l'occasion du dernier Festival international de la liberté de presse, FILEP. Les participants échangent sur la responsabilité et le rôle des journalistes face à la menace terroriste et aux défis posés par l'insécurité de façon globale. Ces assises ont été facilitées par le Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Les détails de notre correspondant Issa Napon.
À cette 7e rencontre annuelle de la liberté d'expression et de la presse, les participants au FILEP ont pendant 4 jours à Ouagadougou épluché les défis sécuritaires, notamment les risques liés au traitement de l'information sur le phénomène du terrorisme. Pour le promoteur de la radio privée du Centre Nord Burkinabé, Kaya FM, le journaliste se retrouve souvent entre le marteau et l'enclume, surtout quand il est question de terrorisme, pointe Madi Ouédraogo.
Le journaliste qui va dire aujourd'hui qu'il a retrouvé Diko, je pense qu'on a plus besoin de lui que Diko. On ne va plus aller à l'essentiel, mais d'abord on va s'acharner sur le journaliste.
Le vrai rôle du journaliste reste incompris jusque dans les cercles de dirigeants, dénonce le Congolais Stanislas Nkundié, président de l'Union des syndicats des journalistes d'Afrique centrale.
Le journaliste, il a cette capacité d'obtenir l'information que le service de renseignement ne peut pas obtenir. Et lorsque vous les trouvez, malheureusement, on vous compare à un terroriste. On pense que vous avez des liens avec les terroristes parce que vous avez appris ou vous avez découvert ce qu'eux n'ont pas été en mesure de trouver comme information. Et nous devenons cibles des forces de sécurité au lieu d'être des partenaires.
Savoir rester objectif dans son travail en donnant des pistes ou alors en dénonçant les bavures qui surviennent du fait du contre-terrorisme est inhérent au rôle des journalistes afin de protéger l'état des droits, soutient Gezouma Sanogo. Il est le président de l'influente association des journalistes de la liste du Burkina.
Comme il faut collecter l'information pour faire son travail, les journalistes courtois, les militaires, en fait, ils sont sur le même terrain. C'est pour essayer de comprendre même les phénomènes et aussi montrer en fait la réalité du terrain. Est-ce qu'on ne viole pas les droits des populations? Vous ne pouvez pas espérer développer un pays si les journalistes ne peuvent pas faire vraiment leur travail.
Venus d'une trentaine de pays africains, pour la plupart, les participants ont aussi débattu du radicalisme et de l'état actuel de la liberté de la presse sur le continent. Issa Napombo-Ouagadougou, VOA Afrique.
Des enquêteurs américains sur les traces de l'embuscade armée qui a coûté la vie à 4 soldats américains et 4 militaires nigériens. Une équipe d'enquêteurs américains et nigériens s'est rendue hier dans le village de Tongo Tongo, au Niger donc. Objectif, avoir une meilleure idée de l'embuscade armée du 4 octobre, du lieu de l'attaque et des lieux environnants. C'est ce qu'a annoncé AFRICOM. Les conclusions de cette enquête, dirigée par le général Roger Cloutier, chef d'état-major d'AFRICOM, ne seront pas publiées avant janvier 2018, a prévenu le Pentagone.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le violent séisme en Iran, en Irak et en Turquie. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le tremblement de terre de magnitude 7,3 a fait 328 morts et 2530 blessés côté Iran, selon Benam Saidi, adjoint du chef de la cellule de crise mise en place en Irak. D'après le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le général Saad Man, 7 personnes sont mortes et 321 autres blessées dans le Kurdistan irakien. Séisme aussi au Costa Rica, décidément. Ce dernier de magnitude 6,5 a frappé l'ouest du pays, d'après l'Institut géographique américain. La secousse a été ressentie jusque dans la capitale San José. Pris de panique, un homme et une femme sont décédés de crise cardiaque, a indiqué Carlos Hidalgo, porte-parole du ministère de la Sécurité. Le centre des alertes au tsunami du Pacifique n'a pourtant pas émis d'avertissement particulier. Présentement aux Philippines, dernière étape de sa tournée asiatique, le président américain Donald Trump a loué aujourd'hui la qualité de ses relations avec le président philippin Rodrigo Duterte. M. Duterte est controversé par les ONG de droits de l'homme en raison de la guerre sanglante qu'il a déclenchée contre le trafic de drogue. Ignorant le sujet, M. Trump s'est contenté de louer la qualité de l'organisation du sommet des Nations Unies des Nations de l'Asie du Sud-Est ASEAN. Et puis, en France, devoir de mémoire, le président Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a entamé aujourd'hui, au Stade de France, en présence de son prédécesseur François Hollande, une série d'hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. 130 personnes y ont péri dans Paris et sa banlieue. Cette série d'hommages s'achève devant la salle de concert du Bataclan, centre de la pire tuerie de la soirée, 90 morts. Et puis, purge anti-corruption sans précédent en Arabie Saoudite. Plus de 200 personnes ont été arrêtées, notamment des princes, ministres et hommes d'affaires. Cette opération coup de poing fait suite à la mise en place d'une nouvelle commission anti-corruption présidée par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Ces malversations atteignent 100 milliards de dollars sur quelques dizaines d'années. Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Paris, le directeur adjoint et chercheur auprès de l'IRIS, Didier Billon.
Ce qui me surprend, c'est la brutalité de cette opération et l'ampleur incontestable de cette vague de purge et d'arrestation. Parce que je ne suis pas du tout convaincu par les arguments qui sont utilisés par le pouvoir saoudien et notamment par Mohamed Ben Salman, qui prend prétexte d'affaires de corruption pour procéder à ses arrestations ou à ses assignations à résidence. La corruption est quasiment un principe de fonctionnement pour une raison très simple. La plupart des grands chefs d'entreprise sont par ailleurs membres des familles princières. Il y a toujours cette proximité entre la sphère économique et la sphère politique.
Cette évolution politique va-t-elle renforcer le pouvoir du prince héritier?
Ce jeune prince, très ambitieux et qui est promis à occuper la place de son papa, cherche aujourd'hui à écarter tous ceux qui pourraient être des concurrents.
C'est tout pour ce bulletin d'information. Je vous souhaite une excellente journée sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.